Pour le moment, il est 8h23 à Paris. C'est l'heure de la revue de presse de Norbert Navarro. Bonjour Norbert.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Et il y a du foot à la une de la presse française avec le tirage au sort de la Coupe du Monde aujourd'hui au Kremlin.
Oui, la Coupe du Monde, la vraie, c'est dans les mains de Miroslav Klose qu'elle sera présentée aujourd'hui à Moscou, étant rappelé par le Figaro qu'avec 16 buts au compteur, ce joueur allemand est le meilleur buteur historique de la compétition. Mais après, en effet, viendra le tirage au sort proprement dit. Suspense garanti, promet ce quotidien. Le monde du foot retient son souffle et non son apnée. Le Figaro, tout commence aujourd'hui, confirme le Parisien, à la une duquel la rotondité des coupoles de la cathédrale Saint-Basile, le bienheureux de Moscou, fait pour le coup ce matin irrésistiblement penser à des ballons de foot multicolores. Après ce tirage au sort, justement, le voyage en ballon, le vrai, pourra alors commencer, formule le Parisien. Oui, en fin d'après-midi, les futurs adversaires de la France auront un nom et des visages. S'impatiente l'équipe, c'est ainsi que débute la quête du sacre planétaire, formule le quotidien sportif.
Et Norbert, la France, elle peut s'attendre à quoi alors justement?
L'équipe a envisagé plusieurs tirages au sort. Les plus difficiles pour la France seraient de tomber dans la même poule de qualification que l'Uruguay, la Suède et le Nigeria, estime l'équipe. Ou alors contre l'Espagne, le Costa Rica et le Nigeria. Ou encore contre l'Uruguay, le Sénégal et la Serbie pour le quotidien sportif. Mieux vaudrait tomber contre l'Espagne que contre l'Uruguay.
Ça, alors, pour quelle raison?
Eh bien, explique encore l'équipe, en tombant contre l'Espagne, la France serait ensuite assurée de tomber contre deux autres nations non européennes et ces dernières ne comptent pas parmi les plus effrayantes, souligne en orfèvre le quotidien sportif. Dans le pire des cas, les Bleus peuvent tomber sur l'Espagne, l'Angleterre ou l'Uruguay, résume à l'inverse le Figaro, ou alors tomber dans une poule plus facile avec le Pérou ou le Mexique. Dans ce journal, l'ancien champion du monde français Patrick Vieira veut croire que beaucoup d'équipes vont craindre la France car la sienne a tout, de la vitesse, de la technique, du physique, estime Vieira qui voit les Bleus aller en demi-finale au minimum, dit-il encore au Figaro.
Suite et fin de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique, le président français s'est rendu au Ghana.
Oui, aucun locataire de l'Elysée ne s'était jamais rendu dans ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, souligne le Parisien. C'est le lieu idoine pour conclure cette tournée africaine car le Ghana est l'exemple à promouvoir. Étant rappelé que ce pays est mitoyen de la Côte d'Ivoire mais aussi du Togo, la version en ligne du Figaro souligne que la visite à Accra d'Emmanuel Macron sert également à se pencher sur la crise togolaise qui secoue la région. Et celle du journal Le Monde croit savoir que le président ghanéen souhaite engager un dialogue politique en mettant tous les sujets difficiles relatifs au processus électoral sur la table. En revanche, ce dernier ne serait pas prêt à défendre une position maximaliste en demandant à Faure Gnassingbé de se retirer de la présidence, énonce Le Monde.
En France, le gouvernement s'oriente vers un dispositif très encadré de réforme de l'assurance chômage pour les indépendants.
Selon le journal Les Échos, le gouvernement qui entend accorder une indemnisation aux travailleurs indépendants en cas de perte d'activité pourrait leur proposer une allocation forfaitaire dont le montant pourrait atteindre les 700 à 800 euros mensuels. En cas de liquidation judiciaire involontaire, seraient concernées 50 à 60 000 personnes par an, estiment les Échos.
Il y a pile un an aujourd'hui, François Hollande renonçait à se présenter à l'élection présidentielle.
1er décembre 2016, 20h, direct, radio-télé, François Hollande jette l'éponge. Une date qui claquera encore longtemps aux oreilles de la gauche, souligne le Parisien. Un an après, quand il voit Macron, c'est un peu comme s'il se regardait lui-même dans un miroir, car il se dit « c'est quand même moi qui l'ai fait », dit à ce journal ce proche parmi les proches de François Hollande qu'est Michel Sapin. Et au regard des bouleversements consécutifs à ce scrutin, ce renoncement du président sortant paraît aujourd'hui comme irréel. C'était il y a un an, il y a un siècle. François Hollande ne renonçait pas, il abdiquait, formule ainsi l'opinion. Comme le remarque ce quotidien, l'ancien président est accusé d'avoir dépouillé la fonction de sa dimension rituelle. Depuis, François Hollande court après son héritage pour tenter de le réévaluer en même temps qu'il critique l'exécutif, remarque encore l'opinion.
François Hollande, c'était donc il y a un an. Et dans un an, en Nouvelle-Calédonie, ce sera le référendum d'indépendance.
30 ans après les accords de Matignon, le Premier ministre Édouard Philippe arrive ce soir à Nouméa, dans un archipel sous tension, car le référendum pourrait raviver le ressentiment des Kanaks, prévient en une Libération. Car dans un an, il va falloir trancher. Hein. C'est l'année de tous les dangers, car sur le Caillou, les différences d'origine et l'inégalité des conditions attisent les dissensions, souligne ce journal, et notamment chez les jeunes qui peuvent trouver dans le refus de tout accommodement un exutoire à leur frustration sociale. Raison pour laquelle Libé aspire à une avancée supplémentaire vers l'autonomie afin de limiter les risques de dérapage.
La mort enfin d'un musée africain en France, une institution de plus d'un siècle pourtant.
Oui, clap de fin pour le musée africain de Lyon, lance le journal local Le Progrès. Fondé en 1863 par la Société des Missions Africaines de Lyon, une communauté de missionnaires catholiques qui compte aujourd'hui 784 membres, ce musée donc était le seul en France dédié exclusivement aux arts et cultures africains, souligne ce quotidien régional. Il est doté de l'une des plus importantes collections consacrées aux arts et cultures d'Afrique de l'Ouest, 6000 objets d'art africains et une bibliothèque de 8000 ouvrages, détaille Le Progrès. C'est terminé. Les difficultés financières ont eu raison de lui. Ses deux salariés ont été licenciés. Complète Le Progrès. Ainsi passe la gloire du monde.
C'était la revue de presse de Norbert Navarro.